Shalom et bonsoir. On est dans le Périclès, non? C'est ça. Là où les lignes sont larges, dans la page Tzadik Amoud Bet. Dans la deuxième ligne, large. À partir du haut. Sha'alou Minin. On avait commencé ça la semaine dernière. Sha'alou Minin. Les minimes ont demandé, ont interrogé, et Rabban Gamliel. Ils ont donc interrogé Rabban Gamliel. Et alors, vous vous rappelez que les minimes sont une identité intermédiaire entre Israël et les nations. C'est-à-dire, soit on est Israël, soit on est Goy. Mais être Israël et avoir une identité de Goy, c'est extrêmement problématique. C'est le cas des minimes. C'est-à-dire, les minimes étaient les ennemis du peuple juif. Ils ont commencé, finalement, ils ont collaboré avec le pouvoir romain. Voilà.
C'était les premiers chrétiens, alors ?
C'était les premiers chrétiens, probablement, qui, eux, ont commencé leur séparation du peuple juif en se désolidarisant sur le plan national. C'est-à-dire, lorsque les Romains ont commencé la guerre, lorsqu'il y a eu la grande révolte en 66, qui a amené finalement à la destruction du temple et par la suite à l'épisode de Massada, les chrétiens ont quitté Jérusalem, les chrétiens qui étaient à l'époque des juifs. Pour bien vous mettre ça dans le cadre de l'époque, ils faisaient des sacrifices au temple, comme tout le monde. C'est-à-dire, ils priaient à la synagogue, comme tout le monde. Ils mettaient les téphilines, ils mangeaient cachère. Eh bien, donc, les premiers des chrétiens ont quitté Jérusalem parce qu'ils ne voulaient pas participer à la guerre. Ils sont allés s'établir dans la ville de Pella, ou Péhal, qui se trouve en Transjordanie, attendant tranquillement la chute de Jérusalem. C'était le premier acte, donc, de désolidarisation nationale. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sectes dans le peuple juif. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Et tous ont participé à la guerre. Les chrétiens n'y ont pas participé. C'était donc une décision bien claire de ne pas participer au destin politique du peuple juif. Oui ?
Quelle était la différence entre le fait qu'ils aient quitté et la fuite de Rabbi Yochanan Ben Zakkai ?
Rabbi Yochanan Ben Zakkai a fui la ville après avoir tenté. Il est resté dans la ville. C'est quand il a vu qu'il n'y avait pas d'espoir qu'il a quitté la ville. Tandis que eux, c'était par refus de la guerre. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, ils considéraient que la chute de Jérusalem était inévitable pour des raisons théologiques. Parce que Jésus l'avait annoncé, etc. Tout ce genre. C'est-à-dire que pour eux, Jérusalem avait cessé d'être un sujet d'intérêt. C'était, on pourrait dire, à la limite, qu'ils souhaitaient sa chute. Et puis après, il y a eu encore plus grave, c'est du temps de Rabban Gamliel, dans la donc première époque de Yavne, c'était donc vers l'an 100 à peu près, donc 30 ans à peu près après la destruction de Jérusalem, où ils ont commencé à collaborer avec les Romains et être des délateurs des Juifs, et donc à ce moment-là, il y a eu la séparation définitive. C'est Rabban Gamliel qui a décidé de trancher. Il a institué à l'époque ce qu'on appelle la Birkat Haminim, la bénédiction contre les minimes, qui est dans le Shmona Esrei, et c'est ça qui a fait que les minimes ne pouvaient plus vivre dans la même communauté que les juifs, parce qu'ils ne pouvaient pas être dans une synagogue dans laquelle ils étaient maudits. Flavius Joseph n'a pas fondé de secte, c'était un individu. De plus, son comportement n'est pas facile à analyser, parce que d'une part, il a fait la guerre lui aussi. Il était commandant de la Galilée. Et c'est lorsque la Galilée est tombée qu'il a décidé de se rendre aux Romains et de convaincre les Juifs de Jérusalem de se rendre. Mais au début, il a fait la guerre. Quoi ? Flavius Joseph, oui, bien sûr. De son nom hébreu, Yosef ben Matityahu. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'était un Juif fidèle, d'ailleurs, à son peuple. Même si on peut critiquer sa politique, c'est tout à fait différent. Oui ?
C'est pas Shmuel
HaKatan. Bien sûr que c'est Shmuel HaKatan. Mais c'est Rabban Gamliel quand même. Parce que Rabban Gamliel était président du Sanhédrin, c'est lui qui a pris la décision d'instituer la bracha. Et pour la formuler, il s'est adressé à Shmuel HaKatan. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il a demandé qui parmi les sages est digne de rédiger cette bénédiction de Birkat Aminim. Il y avait, selon les commentateurs, le Ben Ishraï, le Rafouk, etc., il y avait deux problèmes, en fait, qui se présentaient lorsqu'on a voulu rajouter cette bracha. D'une part, c'est que pour instituer des prières, il faut être prophète. Or, il n'y avait plus de prophète. C'est donc le premier problème. Deuxièmement, le contenu de la bracha en question est problématique, puisque c'est un contenu de haine. C'est-à-dire, on va attaquer quelqu'un. Or, à l'époque de Beit Sheni, juste un peu après aussi, les rabbins étaient atteints d'un grave défaut, c'était le défaut de la haine gratuite, sinatrinam. Et donc, ils étaient capables donc de haïr, de détester des personnes qu'il ne faut pas détester. Or, si celui qui va instituer la bénédiction est habité lui aussi de ce problème, il va introduire dans l'intention de la bénédiction des gens qu'il ne faut pas introduire. Donc, il fallait chercher quelqu'un qui réponde à ces deux problèmes. Eh bien, la réponse, c'est que, d'une part, Shmuel HaKatan était un peu prophète. C'est-à-dire, il restait en lui quelque chose de l'esprit prophétique, du souffle prophétique de l'Antiquité, puisque on l'appelait Shmuel HaKatan parce qu'il était un peu plus petit que Shmuel de Rama, Shmuel du livre de Shmuel. Et de plus, au moment de mourir, il a prophétisé. C'est écrit dans Maseret Sanhedrin qu'au moment de mourir, Shmuel HaKatan a annoncé les événements de la guerre de Bar Kokhba. Donc il avait encore quelque chose en lui. Et à part ça, il était celui dans Maseret Avot qui a dit « Binpol o Yifral tismach, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi ». Ça veut dire qu'il était totalement vide de haine. Il était plein d'amour. Donc c'est à quelqu'un de ce genre qu'on pouvait s'adresser pour rédiger la Birkat Hamin. Voilà. Ça c'est pour les minimes. En tout cas, mais c'est Rabban Gamliel qui a pris la décision de s'adresser à Shmuel HaKatan pour faire cette bénédiction. Bon, alors revenons à notre sujet. Sha'alou minin et Rabban Gamliel. Les minim ont demandé à Rabban Gamliel, qui est celui qui les a foutus à la porte, en fait. Intéressant. Est-ce que ça se passe avant? Est-ce que ça se passe après? C'est pas très clair. Mais en tout cas, ça veut dire que même quand on est l'ennemi de quelqu'un, quand il s'agit de discuter, on discute. On discute ensemble. Il n'y a pas de feuille, n'est-ce pas? Ah, t'as une feuille? Oui. Oui. Non, mais il y en a plusieurs, là. Il y en a encore plein, là. Il y a une flopée de feuilles. Vous avez des feuilles, là? Très bien. Très bien. Bon. Donc, les minimes ont demandé à Rabban Gamliel, « Minayin, chez Akadosh Baruch Hu, mehaye metim. » D'où savons-nous que le Saint, béni soit-il, ressuscite les morts? Et là, vous vous rappelez qu'on avait commencé à étudier ce thème la semaine dernière. Le problème était, pourquoi est-ce que les chrétiens posent la question? Eux, ils croient en la résurrection des morts. Mais ils y croient parce qu'ils attribuent cet événement à un individu, le fondateur du christianisme. Pour eux, c'est par cette personne individuelle qu'ils savent que la résurrection des morts est possible, puisqu'ils prétendent qu'il a été ressuscité. Tandis que pour nous, les juifs, c'est pas du tout par Jésus qu'on le sait. On le sait très bien parce que nous avons de cela une tradition qui est mentionnée également dans la Bible, dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim. Et donc, eux, ils vont entendre les preuves de Rabban Gamliel. Il leur a dit « Amar lahem, mina Torah, ou mina Nevi'im, ou mina Ketuvim, velo kiblu mimeno ». C'est-à-dire, il leur a amené des preuves de toute la Bible, et ils n'ont pas accepté les preuves. Non pas qu'ils ne croient pas en la résurrection des morts, mais ils ne veulent pas que ça passe par la Bible d'Israël. Ils veulent que ça passe par leur mythe à eux. Vous avez compris. Alors donc, voyons la première preuve, c'est... Quoi? Hein?
Pourquoi ils ont posé la question si déjà, au départ, ils savaient qu'ils n'avaient pas la réponse?
Non, c'est peut-être au moment où, justement, c'est pas encore très clair s'ils vont se séparer ou pas. C'est peut-être à ce moment-là que ça se pose. Et ils n'ont pas accepté. Et la première preuve, on l'a amenée la semaine dernière. Minatora, dirtiv, ainsi qu'il est dit, Vayomer Hashem el Moshe, incha shochev imavotecha vekam. Dieu dit à Moshe, tu vas te coucher parmi tes ancêtres et te relever. Amroulo, ils lui ont dit, Vedilma, peut-être qu'il faut lire autrement. Vekama amazé, et ce peuple se lèvera, Vezana, pour se prostituer. Alors, il semblerait a priori que ce sont les chrétiens qui ont raison dans leur lecture. Parce que quand on lit le texte, Inchashorev mavotecha, tu vas coucher parmi tes ancêtres, c'est-à-dire tu vas mourir. Vekama amazé, ce peuple se lèvera. Vezana achare Elohe nechar haaretz, ils se prostitueront auprès des dieux étrangers. Et pourtant, Rabban Gamliel pense que le mot vekam se lèvera s'adresse à Moshe et non pas au peuple. Alors, qu'est-ce qui autorise Rabban Gamliel à une interprétation aussi osée? C'est ça? Et vous vous rappelez qu'on avait compris ça de différentes manières. D'abord, au niveau du contexte général du texte. Le contexte, c'est la Torah. Or, la Torah est un livre optimiste. C'est-à-dire, l'atmosphère, ce que respire la Torah, c'est l'optimisme. C'est-à-dire ce sentiment que, finalement, tout ira bien. Même si ça passe par des tas de mauvaises situations, mais finalement, ça ira bien. Or, ce que dit le verset, il dit, puisque Moshe va mourir, tout ira mal. Mais Moshe va mourir. Comment est-ce que... Si Moshe va mourir et que tout ira mal, c'est donc qu'il faut que Moshe ressuscite. Puisque c'est la vie de Moshe, l'existence physique de Moshe, qui est la condition que ça aille bien. Donc il faut qu'il revive. C'est impliqué dans le fait même que le verset ne peut pas admettre, le verset nous laisse entendre que Israël va abandonner l'alliance, et ça c'est intolérable pour un juif, donc il est évident que Moshe va revivre. Maintenant, pour un chrétien, quand il lit ce texte-là, au contraire, il est tout content. Il dit, c'est très bien, Moshe va mourir, donc le peuple va quitter l'alliance, et l'alliance sera rompue, et Dieu va les abandonner, et il va choisir quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la logique de la lecture du texte quand on est chrétien, ou de la logique de la lecture du texte quand on est juif. C'est le contexte qui implique la manière de lire le verset. Vous avez compris? Bon. À part ça, il y a aussi autre chose, ça on est rentré un peu plus dans le détail, c'est que le mot shochev, se coucher, pour désigner la mort, est mal choisi. On devrait dire, tu vas mourir, c'est-à-dire inra met. Inra shochev, c'est-à-dire le fait même que le texte de la Torah désigne la mort par le verbe qui veut dire se coucher, ça veut dire que mourir, c'est seulement se coucher. Et on se couche pour se relever. Donc même s'il n'y avait pas écrit le mot vekam, le fait même de dire shochev veut dire vekam. Voyez-vous? Et en plus forte raison, si la Torah a décidé de mettre le mot vekam à côté du mot shochev, est-ce qu'on peut leur fermer la porte, hein? Parce que, par exemple, c'est une idée comme ça. C'est pas par animosité quelconque, c'est une nécessité technique, voyez-vous. Hein? Bon. À part ça, il y a aussi encore autre chose. Si on utilise non pas le mot shochev, mais le mot vekam. Le mot vekam veut dire le peuple se lèvera. Il se lèvera pour quoi faire? Pour se prostituer auprès des dieux étrangers et pour m'abandonner. Ça ne s'appelle pas se lever, ça s'appelle tomber. C'est pourquoi est-ce qu'une chute est désignée par un verbe qui signifie se relever? C'est ça? Il y a ici une inconséquence du texte. Ça veut dire qu'il y a une intention du texte qui est que, indépendamment de la chute, il y a quelqu'un qui doit se relever, c'est Moshe. Et on peut aller plus loin, on peut dire que ça veut dire que Moshe doit mourir pour que le peuple tombe, pour qu'il puisse se relever. C'est-à-dire, c'est un principe d'éducation, on ne peut pas arriver à la maturité tant qu'on n'est pas, délaissé par ses tuteurs. D'accord? On a besoin qu'un moment, les maîtres, les parents vous laissent libre de tomber, pour pouvoir se relever. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire d'Israël. Ça explique pourquoi est-ce que Moshe doit mourir. Moshe doit mourir parce que tant qu'il est vivant, le peuple ne peut pas arriver à son niveau. Et donc il faut que Moshe meure pour que le peuple arrive au niveau de Moshe, et alors il n'y aura plus de justification à la mort de Moshe. Donc il revivra. On sera avec lui en amitié, quoi, comme des copains. Vous voyez. Je crois que c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Donc eux n'acceptent pas, et ils ne discutent pas avec eux, parce que le fait qu'ils n'acceptent pas prouve qu'ils ont déjà passé la barrière. C'est-à-dire que pour eux, l'abandon d'Israël est irrévocable. Et donc, on ne peut pas discuter avec eux. La deuxième preuve, Mina Nevi'im, il aura amené une preuve tirée des prophètes. Dirtiv, car il est dit. Et là, on amène un verset d'Isaïe, Yeshayahu. Yahyu Metecha, tes morts vivront. Nevelati yekumun, leur cadavre se redressera. Hakitsu veranenu, éveillez-vous, réjouissez-vous, shochne afar, résident de la poussière. Ki tal orot talecha, car c'est une rosée de lumière que t'as rosée. Va aretz refaim tapil, tu abattras au sol les géants. Donc, le prophète dit en toutes lettres que les morts revivront, non? Je vais vous dire même pire que ça, chez les critiques bibliques, il y a une hésitation pour savoir si le verset parle quand même de la résurrection des morts ou pas. Il faut le faire. Si même les critiques bibliques se demandent si ce verset ne parlerait quand même pas de la résurrection des morts, ça prouve qu'il en parle. D'accord? Donc c'est la preuve amenée par Rabban Gamliel. Vous voyez bien que Yeshayahu dit en toutes lettres que les morts revivront. Ils ne sont pas d'accord. Alors la réponse est surprenante. Vedilma, peut-être. Metim Sheyahya Yechezkel, qu'il s'agit des morts que Ézéchiel a ressuscités. C'est-à-dire quand Isaïe parle des morts qui vont ressusciter, eh bien il parle des morts que Ézéchiel ressuscitera. Ézéchiel vit quand même quelque chose comme 80 ans après Isaïe. Voyez-vous ? C'est clair ce que je dis là ?
Il y a une contradiction dans le.
Attends une seconde, il faut qu'ils comprennent d'abord. Rabban Gamliel amène un verset de Yeshayahu. Isaïe, c'est Yeshayahu. Qui dit, les morts revivront. Donc ça prouve qu'il y a la résurrection des morts. Réponse des chrétiens, non, non, pas du tout, il ne s'agit pas de la résurrection des morts. Il s'agit des morts que Ézéchiel a ressuscité. Il a ressuscité effectivement les morts 80 ans plus tard. Bon, alors quelle est la contradiction? Comment?
C'est de la chronique.
Non, pas du tout. Yeshayahu annonce à l'avance qu'Ézéchiel va ressusciter les morts. Il a le droit. Nous, on veut après les deux. Hein? Donc ça veut dire que les morts ressuscitent. Alors il y a ici deux problèmes. Si Yeshayahu parle de morts qui vont ressusciter, même si c'est par Yeheskel, ça veut dire que les morts ressuscitent. À part ça, pourquoi si déjà, alors ne pas amener le texte d'Yeheskel? Si déjà on veut amener un texte des Nevi'im qui prouve que les morts ressuscitent, eh bien on a directement le texte d'Ézéchiel. Pourquoi passer par Yeshayahu qui parle d'un texte d'Ézéchiel? Vous avez compris le problème? Ça se rapporte à ce que vous avez dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Que c'est écrit en toutes lettres dans Ézéchiel que les morts ressusciteront. On voit que, aussi bien Rabban Gamliel que les chrétiens sont d'accord pour dire que le texte d'Ézéchiel ne parle pas de la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il était très clair pour les deux parties du débat, pour les deux parties en présence, que Ézéchiel ne parle pas de la résurrection des morts. Et donc quand on dit que Yeshayahu, quand il dit les morts revivront, il parle des morts d'Ézéchiel, il ne s'agit donc pas de résurrection des morts, il s'agit d'autre chose. Alors de quoi s'agit-il? Ah, problème. Enfin, vous avez compris, le texte ne parle pas de la résurrection des morts. Alors de quoi parle-t-il? Ben pour ça, il faut regarder dans le Tanakh.
Il y a ici un Tanakh?
Oui, il y en a.
Dans Ézéchiel, quel chapitre?
37, quoi. C'est dans la Haftara qu'on lit à Chol HaMoed Pessah, à Shabbat de Chol HaMoed Pessah. Voyons le texte. Haïta alay yad Hashem. La main de Dieu fut posée sur moi. Vayotzieni beruach Hashem. Il m'a fait sortir par l'Esprit de Dieu. Vayini henni betoch habika'a, il m'a déposé dans la vallée. Vehi melea atzamot, elle était pleine d'ossements. Vehevirani alehem saviv saviv, il me fit passer autour, tout autour. Vehine, voilà, rabot meod alpene habika'a, les ossements étaient nombreux dans la plaine. Vehine yeveshot meod, il était très sec. Vayomer Elai. Quoi? C'est vrai, il était très sec. Vayomer Elai. Ben Adam. Il nous dit, fils de l'homme. Atihyena ha'atzamot ha'elle. et ses ossements vont-ils revivre? Va Omar, je dis, Adonai Elohim Atayadarta, éternel Dieu, c'est toi qui le sais. Ça veut donc dire qu'il y a ici une vision d'abord. C'est pas quelque chose de physique, c'est dans une vision prophétique. Le roi Hachem, il voit ça comme dans un rêve. Va Omar est là, il me dit, il n'avait ala atzamota ele, prophétise sur ses ossements. Va Marta alehem, et tu leur diras, ha atzamot ayeveshot, shimrou devar Hachem, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ko amar Adonai Elohim la'atzamot ha'ele, ainsi parle l'Éternel Dieu à ses ossements. Hine ani mevi bachem ruach firkitem, je vais amener en vous un souffle et vous vivrez. Venatati alechem gidim, je vous mettrai sur vous des nerfs. Ve'aleti alechem basar, je ferai croître sur vous de la chair. Ve'karamti alechem or, je ferai pousser sur vous une peau. Venatati bachem ruach virgitem, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Vidartem vous qui allez Hachem et vous saurez que je suis l'Éternel. Veni beti kasher tzu beti, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Vayehi kol ki inavi, il eut une voix lorsque je prophétisais. Veinerach, puis un bruit. Vatikrevo atzamot etzem el atzmo, les ossements se rapprochèrent l'un de l'autre. Veraiti vine alem gidim, et j'ai vu qu'il y avait sur eux des nerfs. Uvasar ala, une chair qui croissait. Vaikram alehem, hormis les mala, une peau qui les a enveloppés de tout autour. Veru ahen bahem, il n'y avait pas en eux de souffle. Vayomer ela, il me dit alors, il n'avait la ruach, prophétise vers le souffle. Il n'avait ben Adam, prophétise fils de l'homme. C'est le problème d'où vient le vent. Vea Marta et la Ruach, et tu diras au souffle, Ko Amar Adonai Elohim, ainsi par l'Éternel Dieu, Merba Ruchot Bouya Ruach, de tous les quatre coins du monde, viens souffle. Ufri, insuffle-toi, Baharugima El Leviriu, dans ces tués, pour qu'ils revivent. Vina Betik, Asher Tzivani, je prophétisais comme il me l'avait ordonné, Vatavo Bahema Ruach, le souffle, vint en eux, Vayiriu, ils vécurent. Vayamdu Al Raglehem, Haïl Gadol, Meod Meod, ils se levèrent sur leurs pieds, une armée très très grande. Voilà. Ça, c'est la vision. Maintenant, ça veut dire quoi cette vision? Est-ce que c'est la résurrection des morts? Évidemment pas. Non, absolument pas. La preuve est donnée dans la suite. C'est-à-dire qu'après, non seulement il y a la vision, mais Dieu lui donne l'interprétation de ce qu'il a vu. On va voir. Vayomer Elai ben Adam, il me dit alors, fils de l'homme, Hatzamot Haele, ses ossements. Kol bet Israël hema, c'est toute la maison d'Israël. C'est-à-dire, c'est le peuple juif en exil. C'est donc quoi les ossements? Ben, c'est les communautés de Gola. C'est quoi donc les tombes? Eh bien, c'est les centres communautaires, les synagogues, les boucheries cachères et tout ça. Et c'est quoi les ossements? Ben, les ossements, c'est les rabbins, le chazan, le bedo, les cadres de la communauté, etc. C'est ce que dit ici le texte, hein. Moi j'ai pas inventé. Ha'atzamot ha'ele, ces ossements-là, kol bet Israël hema, c'est toute la maison d'Israël. Hine omrim, voici qu'ils disent. Donc c'est des ossements qui parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Yavshu atzmotenu, nos ossements sont desséchés. Ve'avda tikvatenu, notre espoir est perdu. Nixarnu lanu, c'en est fait de nous. C'est-à-dire qu'on sortira plus jamais d'eux. Lachen inave ve'amarta alehem. Donc prophétise, tu leur diras, Ko amar Adonai Elohim, ainsi par l'Éternel Dieu. Je vais ouvrir vos tombes. C'est quoi vos tombes? Les centres communautaires, n'est-ce pas? Vers l'étietrem et kivrotechem, ami, je vous ferai monter de vos tombes mon peuple. Veheveti etrem et l'admat Israël. Et je vous amènerai sur la terre d'Israël. C'est donc bien clair que les tombes, ce n'est pas des tombes. Et les ossements, ce n'est pas des ossements. C'est le peuple dans sa galoute. Le moulin de la galoute. Demandez le pogrom. Veveti et Trembla Israël, Vidartem, qui a ni Hachem, vous saurez que je suis l'Éternel. Befitri et Kivrotechem, encore je vous ouvrirai vos tombeaux. Ouveraloti et Trem et Kivrotechem, ami, et que je vous ferai monter de vos tombes, ô mon peuple. Venatati Ruchi Bachem Virchitem, je mettrai alors mon souffle en vous et vous vivrez. C'est quoi le souffle? Eh bien, c'est la Torah d'Eret Israël. La Torah du Rav Kouk, donc. Vinarti etrem aladmatrem, et je vous déposerai sur votre sol. Vidartem kiani Hashem, et vous saurez que je suis l'Éternel. Dibarti varsitinu Hashem. J'ai parlé et j'ai accompli parole de l'Éternel. Donc, vous avez bien vu qu'il est évident que ce dont parle Ézéchiel, ce n'est pas de la résurrection des morts, mais du retour en Eretz Israël. C'est bien clair ? Du retour en Eretz Israël, mais de quel retour parle-t-il ? De quel exil ? L'exil de Babylone ou l'exil de Rome ? Eh bien, quand on lit le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel vivait à quelle époque ? Pendant l'exil de Babylone. Donc, pour les auditeurs d'Ézéchiel, comprenaient tout à fait qu'il parlait du retour à l'époque du deuxième temple, au temps de Ezra et Néhémia, lorsqu'on a reconstruit le deuxième temple. C'est ça dont parle Ézéchiel. C'est ça ? Donc, qu'est-ce que disent les chrétiens à Rabban Gamliel ? Les morts qui vont ressusciter, c'est les morts d'Ézéchiel. Ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé dans l'histoire lorsque vous avez refondé votre deuxième temple, votre deuxième royaume de Juda. N'est-ce pas ? Et ça rend tout à fait justement dans la logique du christianisme qui affirme que toutes les prophéties qui parlent de la fin des temps se sont déjà réalisées à l'époque du deuxième temple. Voilà, c'est pour ça qu'il rejette l'opinion de Rabban Gamliel. Remarquez l'honnêteté intellectuelle extraordinaire de la Gemara qui amène leurs arguments. Oui.
Qui amènent
leurs arguments. Oui, les arguments des énergumènes. Voilà. Bon. Après, il leur amène une troisième preuve. D'ailleurs, la première preuve concerne la pérennité de Am Israël. La deuxième est tirée de la pérennité de la terre d'Israël. Et la troisième est tirée de la pérennité de la Torah. Vous allez voir ça. C'est quoi la troisième preuve ? Qu'il n'accepte pas non plus. Mina Ketubim, il leur a amené une preuve tirée des agiographes, hein, d'Irtiv, car il est dit, c'est un verset du Shirachirim, du Cantique des Cantiques. Vehiker keyenatov, ton palais, le palais de la bouche, hein, ton palais est comme un bon vin. Holer les dodi les mécharim, qui va droitement vers mon bien-aimé. Dovev, Sifte Yeshenim, qui fait parler les lèvres des dormeurs. Bon, le Shir HaShirim, c'est un cantique. Un cantique est écrit en termes poétiques, et la poésie s'exprime de manière associative, n'est-ce pas ? Par énigme. Donc, si dans un cantique, il est question d'un vin qui fait parler les dormeurs, de quoi s'agit-il ? Les dormeurs sont donc ceux qui sont morts. S'il y a un vin qui peut faire parler les morts, c'est donc que les morts vont ressusciter. N'est-ce pas ? Ouais. Vous avez déjà vu un vin qui fait parler ? Le vin fait parler en général. N'est-ce pas ? Ça fait beaucoup parler. Mais ça ne fait pas parler ceux qui dorment. Donc s'il y a un vin qui est capable de faire parler les dormeurs, ce sont des dormeurs particuliers dont on s'extasie de savoir qu'ils parlent. C'est donc les morts, et les morts vont donc ressusciter puisqu'ils doivent parler. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. La preuve est convaincante ? Elle est pas mal comme preuve. Bon, voyons ce qu'ils ont répondu, les minimes. Et ils ont dit non. Comment ? Il faut dire oui. Très bien. Non, mais c'est pas clair ce que je dis ? Ah, c'est clair. Bon, d'accord. Védilma, alors peut-être qu'il faut lire autrement, ils ont dit. Rahushe meharahashan sifvate be'alma. Peut-être seulement leurs lèvres s'agitent banalement. C'est-à-dire, c'est pas que les morts ressuscitent, mais c'est-à-dire que les morts remuent leurs lèvres. Ah bon ? Ils amènent une preuve du judaïsme. Que Rabbi Yochanan, comme disait Rabbi Yochanan. De'amar Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, car Rabbi Yochanan disait au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Kol mi sheneemra alacha bishmo ba'olam hazeh, tout celui dont on cite un enseignement en son nom dans ce monde, siftotav dovevot bakever, ses lèvres se remuent dans la tombe. Sheneemra dovev sifte yeshenim, ainsi qu'il est dit, qui fait parler les lèvres des dormeurs. Donc, bien, vous avez même un rabbin qui admet ça.
Mais les morts n'ont plus de lèvres.
Comment ?
Un cadavre, il n'y a pas de lèvres.
Oui, alors justement, vous voyez tout de suite, hein, il n'y a pas de lèvres. Ça dépend à quel moment.
Il n'y a que des os.
Ça dépend à quel moment. Il y a le premier moment, puis il y a le deuxième moment. Et puis, il y a aussi des lèvres fossiles. Alors, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que les chrétiens ont une approche extrêmement magique des versets de la Bible. Ils s'imaginent que ça veut dire que quand on dit un enseignement de Torah au nom d'un mort, eh bien, mécaniquement, dans la tombe, sa bouche se met à s'agiter. Donc, ça serait très simple. Vous savez, par exemple, on ne sait pas aujourd'hui où est la tombe de Rashi. Si c'est vrai, est-ce
que...
Oui, il est enterré à 3, même à 4, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où est la tombe de Rashi. On ne sait pas où est la tombe de Rashi. Oui, je vous assure, on ne sait pas. Alors, on pourrait très bien, vous assure que si on l'a trouvé, la tombe, ce serait un lieu de pèlerinage et que les Français feraient du pognon. Alors là. Mais ce n'est pas comme ça. Et donc, en fait, la solution serait très simple. Étant donné qu'on ne cesse pas de citer Rashi dans le monde juif tout entier à tout moment, alors on a qu'à aller se promener un peu à Troyes en Champagne, voir où le terrain bouge beaucoup. C'est ça ? Il suffirait de voir là où le sol est meuble. Et alors on dit, ah ben voilà, c'est là que Rashi est enterré. Et c'est pas comme ça, n'est-ce pas ? Mais enfin, vous voyez qu'il y a ici une interprétation superstitieuse des textes rabbiniques même. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement caractéristique de l'atmosphère chrétienne. Les chrétiens ont pris tous les textes et tous les thèmes du judaïsme et les ont interprétés à la manière d'une mythologie. Et à la manière païenne. C'est-à-dire, c'est les mêmes thèmes, mais ils sont compris de manière déformée. Alors, quand Rabbi Yochanan dit que les lèvres du mort s'agitent dans la tombe, qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'est une parabole, ça veut dire qu'il continue à vivre. Rashi n'est pas mort, puisqu'on cite les enseignements. C'est ça que ça veut dire. Donc ses lèvres continuent à s'agiter. Ce n'est pas quelque chose de physique. Mais effectivement, il est absurde de dire que Rashi est mort, puisqu'on n'arrête pas d'étudier ses enseignements. N'est-ce pas ? Eh bien, en tout cas, c'est comme ça qu'eux ont compris, mais en fait, ça va en fait beaucoup plus loin. Ils considèrent que le peuple juif, dans son ensemble, est un cadavre qui s'agit. C'était la théorie d'un certain Arnold Toynbee. Vous avez entendu parler d'Arnold Toynbee ? Non, vraiment pas ? Ah ben c'est bien dommage. Arnold Toynbee, ben maintenant vous allez en entendre parler. Arnold Toynbee était un des plus grands historiens du XXe siècle. C'était un Anglais de confession catholique qui a écrit une des plus grandes encyclopédies historiques du monde, sur l'histoire des civilisations, et dans laquelle il a voulu dégager les grandes lignes de l'histoire, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas des règles, des comportements historiques, c'est-à-dire comment est-ce que commence une civilisation, comment est-ce qu'elle apparaît, comment elle se développe, comment est-ce qu'elle disparaît, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des règles ? Alors, il est le premier à avoir formulé une règle, qui aujourd'hui est une banalité, mais en fait, quand il l'a dit, c'était un grand ridouche. Il a dit que toute civilisation, toute grande nation, passe trois étapes dans sa vie. La première, c'est une période de gestation, une sorte de période épique. Comment ? Comme le bébé, exactement. C'est-à-dire, c'est une époque où la nation est en train de se former. Elle vit pour elle-même, dans ses histoires à elle, ses petites guerres à elle, etc. Et puis, une fois qu'elle est bien établie, il y a la naissance. C'est quoi la naissance ? L'apogée. C'est le moment, qui est en général assez court dans l'histoire, où cette nation donne au patrimoine général de l'humanité sa contribution spécifique. Exemple de cela, la Grèce, par exemple. La Grèce est bien connue, alors il y avait l'époque antique, la guerre de Troie, tous ces machins-là, et puis après il y a eu la Grèce classique, où il y a eu les grands philosophes, la démocratie, la science, etc. C'est une période assez courte, de 150 ans à peu près, pendant laquelle la Grèce a donné ce qu'elle avait de meilleur, et l'a donné pour l'humanité tout entière. Et puis le troisième stade, c'est une période plus ou moins longue aussi, où finalement cette nation entre en décadence et disparaît. Parce qu'elle a fini son travail. Quoi.
Elle décline,
c'est ça. C'est-à-dire, elle a fini son rôle historique, et donc elle n'a plus de justification à exister, et donc elle disparaît. Voilà. Ça, c'était la grande théorie de Toynbee. Simplement, il a eu une exception à cette règle, c'est les Juifs. Les Juifs, d'après lui, ont passé les deux premiers stades, c'est-à-dire, ils ont eu leur période de gestation, c'est l'époque biblique. Après, ils ont donné au monde ce qu'ils avaient à donner pour lui, c'est le christianisme. Et une fois qu'ils l'ont donné, ils ont oublié de disparaître. Alors, selon la logique, ils auraient dû décliner et disparaître de l'histoire. Or, ils ne l'ont pas fait. Et Toynbee, pour répondre à ce problème, a forgé une nouvelle notion en histoire. Il dit qu'il y a des peuples fossiles. C'est-à-dire le peuple juif s'est fossilisé. En vérité, ce peuple est mort, et on a l'impression qu'il est vivant, mais c'est simplement une agitation mécanique. C'est-à-dire ça continue tout seul à marcher, mais en fait, c'est un corps mort. Et c'est exactement ce que disent les minimes dans la Guémara ici. C'est comme s'il avait lu. C'est-à-dire, cette idée, le peuple, vous croyez que le peuple juif est vivant? Il n'est pas vivant. Il est fossile. Maintenant, Arnon de Toynbee a eu quand même un petit problème, c'est qu'il a vécu ce moment de l'histoire où il y a eu l'État d'Israël. Alors, l'État d'Israël, ça lui a posé un vrai problème, parce qu'un fossile, ça marche, mais enfin, n'exagérons pas. Un fossile qui commence à s'agiter, à parler, à vivre, à faire la guerre, c'est pas un vrai fossile, ça. Alors, il a trouvé une réponse à cela. Il a trouvé une réponse. Il a dit, c'est quelque chose de très simple. Il dit, c'est vrai que le peuple juif est fossile, mais les Allemands, ils ne sont pas fossiles du tout. Les Allemands sont un peuple très vivant et cruel, qui a exercé sa cruauté sur ce fossile, et donc qui a injecté de la violence dans ce corps, et cette violence est appliquée par les Juifs contre les Arabes en Palestine, mais en fait, ce sont des Allemands qui font la guerre à des Arabes par des Juifs interposés, vous voyez ? Oui, mais enfin, c'est plutôt dire que les Juifs sont des nazis, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire aussi. Bon. Alors, quand il a dit ça, il était à Toronto, au Canada, et l'ambassadeur d'Israël à l'époque au Canada, c'était Yaakov Herzog. Yaakov Herzog, c'était le frère de Chaim Herzog qui a été président de l'État d'Israël. Et Yaakov Herzog, qui était le fils aussi du grand rabbin Herzog, qui était grand rabbin d'Israël, était extrêmement choqué de ses propos. Il a provoqué en débat public Arnon de Toynbee. Et alors, il y a eu tout un débat qui a été une victoire, si vous voulez, une victoire morale d'Israël. Et finalement, Toynbee a été complètement ridiculisé dans cette histoire. D'ailleurs, pour finir son discours, Yaakov Herzog a cité le verset « Lo amut ki yehye ». Je ne meurs pas, je vivrai. Ben, ça fait Maasiya pour raconter la louange de Dieu. Enfin, ça fait un grand kiddush Hashem. Le texte est connu. D'ailleurs, il a été enregistré, tapé, etc. Bon.
Ça se trouve dans le. C'est un peu vrai puisqu'on n'utilise pas nos armes. Puisque les armes dont on se sert, ce sont les armes des Juifs. C'est pas un peu vrai ce qu'il dit, non, ce Toynbee.
C'est un peu, mais pas totalement. C'est-à-dire que le Zohar dit l'épée d'Israël est emprêtée à Ésaü. C'est vrai. Mais elle est employée par un peuple vivant, pas par un peuple mort. C'est-à-dire, quand nous revenons en Eretz Israël, nous revenons pas parce que les Allemands nous y ont poussé, parce que c'est une aspiration millénaire de revenir ici, tout simplement. C'est pas un accident de l'histoire.
Oui, on est revenu même avant.
L'effort de revenir était même antérieur au sionisme. C'est avant même le sionisme politique, déjà, ce mouvement de retour. Donc c'est quelque chose de vivant qui s'est peut-être accéléré par la Shoah, mais ça n'a rien à voir. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui est moins connu, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Toynbee. Arnold, A-R-N-O-L-D. Toynbee s'écrit T-O-Y-N-B-E-E. Voilà. Toynbee. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans les dernières années de la vie de Toynbee. Vers la fin de sa vie, il a suivi une évolution dans laquelle, en fait, il est revenu sur ce qu'il avait dit. Il était prêt à admettre même que la présence de Dieu, la Shekhina, n'avait pas quitté Israël. Il n'était pas loin de penser à se convertir au judaïsme. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, tout ça, c'est écrit également dans la Guémara que nous avons devant les yeux. Pourquoi ? Parce que finalement, la Guémara dit que Rabban Gamliel a quand même convaincu les chrétiens. Comment est-ce qu'il les a convaincus ? Il leur a amené ici deux versets. Le premier, Atche amar lahem mikrasé, jusqu'à ce qu'il leur dise ce verset-là. Quel verset? Asher nishba Hashem la votechem la tête lahem. Lahem lo nehemar et la lahem ikan ichriat amiti mina Torah. Que Dieu a juré à vos ancêtres de leur donner et pas de vous donner. Donc, la résurrection des morts est écrite dans la Torah, puisque nos patriarches doivent revivre pour prendre possession de la terre. En d'autres termes, ça veut dire que ce qui a pu convaincre, ce qui peut convaincre le chrétien, c'est le retour d'Israël. Lorsqu'Israël revient, ça détruit la thèse chrétienne.
C'est pour ça qu'ils ont fait plus de droits.
Qu'ils ont fait ?
C'est pour ça que ça a déjà eu un énorme coup. Quand ils envoient une lettre à l'extérieur, ils excluent Jérusalem, Israël.
Oui, ça les prend à la gorge. Voilà. Eh bien, c'est ce que ici il leur a dit Rabban Gamliel. Vous voyez bien que finalement le retour est annoncé. Donc, la résurrection des morts, c'est vrai. Parce que si un peuple est capable de revivre après être mort, alors un individu aussi peut revivre après sa mort. Voyez-vous ? Là, c'est donc la première réponse qu'ils ont acceptée. Et puis, il y en a une deuxième. En tout cas, vous avez vu que toute l'histoire d'Arnold Toynbee et de son retour, c'est déjà écrit dans la Guémara. Ce qui prouve que la Guémara a été écrite au XXe siècle. Bah oui. Veyesh omrim mina mikra azé, et d'autres disent qu'il leur a amené ce verset-là. Quel est le verset? Amar lahem, il leur a dit, Ve'atem adevekim bashem elohechem, haim kullechem ayom. Vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants en ce jour. Et là, il leur a expliqué, Ma hayom kulchen kayamim, de même que vous êtes tous vivants en ce jour, Afle olam abba kulchem kayamim, et donc dans le monde à venir, vous serez tous vivants. Alors, c'est quoi ça? Je vais vous dire que, parce que c'est très beau de dire que le retour d'Israël détruit la thèse chrétienne, etc. Mais pendant tout le temps de l'exil, est-ce qu'un goy a les moyens de découvrir l'éternité à travers le peuple juif? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut avoir une intuition de la résurrection des morts en regardant les juifs pendant l'exil? Ça dépend. S'il rentre à l'intérieur des juifs, oui. Il y a des cas comme ça. Par exemple, il y avait du temps de Charlemagne. Vous savez qui était Charlemagne? C'était un empereur franc. C'était un empereur d'Europe. Un empereur d'Occident, oui. Ouais, c'était un empereur. Charlemagne. De son temps, l'Église avait envoyé en espionnage un diacre. C'est un des grades dans l'Église, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Un diacre espionnait les juifs. C'est-à-dire, il devait se faire passer pour un juif, vivre parmi les juifs, et après ramener des informations à l'Église pour mettre en accusation les juifs. Alors, il a vécu parmi les juifs, il a été tellement bien impressionné qu'il s'est converti au judaïsme et qu'il s'est fait appeler Elazar et qu'il est passé en Espagne. Il est devenu rabbin d'ailleurs, un truc comme ça. Bon. Enfin bref, ça veut dire que lorsqu'on rentre dans l'intériorité de la vie des juifs, même en temps d'exil, on voit la présence de la Shérina. J'ai vu une fois un compte-rendu écrit par un préposé, un envoyé du roi d'Espagne à Oran. Vous savez où c'est Oran? C'est dans l'Algérie. Ouais. Mais il fut un temps où Oran était sous domination espagnole. Alors ça, c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce que c'était après l'exil des juifs d'Espagne. Et alors, l'Espagne a fait la conquête de l'Oranie, mais il n'y avait pas d'édit d'expulsion des juifs d'Oran. Donc, les juifs ont été sous domination espagnole à Oran, alors qu'en Espagne, il n'y avait pas le droit d'avoir des juifs. Et bon, ils vivaient dans un ghetto, ils étaient dans des conditions très, très limitées, etc. Ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et là-bas, il y a tout un compte-rendu qui est écrit par l'envoyé du roi d'Espagne qui doit donner un compte-rendu sur la communauté juive. Alors, il est très antisémite, il ne les aime pas du tout. Il dit ce qui est vraiment détestable dans cette communauté, qu'on devrait absolument chasser de la ville, c'est parce qu'ils ont une telle moralité, leur moralité est tellement élevée, que ça met en accusation les chrétiens. D'accord ? Il dit, c'est quand même un scandale. On ne va quand même pas laisser ces gens-là être aussi honnêtes parmi nous. Il le dit, hein. Il le dit comme ça. Et ça prouve que quand même, on peut, quand on rentre dans l'intériorité, voir ces choses-là. Il y avait d'ailleurs un goy, vous avez certainement, ça c'est au 19e siècle déjà, vous avez certainement entendu parler de Aimé Pallière, n'est-ce pas? Aimé Pallière, qui était un Français catholique de Lyon. qui est entré un jour de Kippour dans la synagogue au moment de la Néhila. Vraiment, il a choisi son moment. Il a été extrêmement impressionné, il a eu une sorte de choc. Il a compris donc que la Shérina était présente en Israël, il a voulu se convertir. Bon, finalement, il ne s'est pas converti pour des tas de raisons, ça, on ne va pas rentrer dans ce détail, c'est plutôt compliqué. Mais enfin, il y a eu toute cette histoire. Et donc, c'est un peu ce que dit ici la Guémara. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la patience d'attendre le retour d'Israël, ben vous n'avez qu'à rentrer dans la vie des Juifs. Ve'atem adevekim b'ashem elohechem, haim kulchem ayom. Vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants en ce jour. Et vous êtes le témoignage qu'il y a un Olam Haba, puisqu'on voit ça dans votre vie de tous les jours. À ce propos, je voudrais quand même vous citer un enseignement du Rav Tzvi Yehuda Kouk. Quand on entend un verset comme Ve'atem adevekim b'ashem elohechem, haim kulchem ayom, on se dit, oh là là, c'est vraiment un très haut niveau, c'est pas à moi que ça s'adresse. On ne s'adresse pas à moi. C'est ça que le verset dit non. Ve'atem, c'est à vous qu'on parle. À moi qu'on parle. Bon, on ne demande pas certainement grand-chose. Qui suis-je ? Et non, on demande advekim, d'être attaché, adhérent. Adhérent ? Oh là là, certainement il faut adhérer à une noble cause, adhérer à la communauté. Non, non. Ve'atem advekim, bashem elohechem. Vous allez vous attacher à l'Éternel votre Dieu. Oh ça, oh là là, c'est certainement après la mort. Non, non, haïm, pendant votre vivant. Alors, adhérer à Dieu de mon vivant, ça c'est seulement quelques élus. Non, non, kulchem, c'est vous tous. Bon, alors il faut attendre que je sois vieux. Non, hayom, c'est réalisable aujourd'hui. Bon, ça c'est au niveau du chidouche. Vous avez compris donc le débat entre Rabban Gamliel et les minimes. Donc, en tout cas, même les minimes peuvent admettre la résurrection des morts. Oui. Si, parce que ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est... On était dans les premiers cours, n'est-ce pas ? Oui, alors on a expliqué que quand la Guémara dit « De là, nous savons qu'il y a la résurrection des morts », ça ne veut pas dire que c'est de là que nous savons qu'il y a la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, on le sait par tradition. Nous savons par tradition que les morts ressusciteront. Ce que dit ici la Guémara, c'est tout à fait autre chose. Qu'a fait la Torah pour que nous ayons l'intuition de ce que c'est que la résurrection des morts. Et donc il nous faut pour cela un élément d'éternité dans notre vie éphémère. Et alors on avait vu que ça dépendait de l'interlocuteur. Si on est hébreu, alors l'élément d'éternité dans la vie éphémère, c'est le temple et les Kohanim. Si on est juif, c'est le sionisme. Si on est chrétien, alors c'est soit le retour d'Israël, soit la rencontre directe avec la vie des juifs. N'est-ce pas ? On a vu donc que ça dépend d'interlocuteur. Et donc, si une nation, c'est ça qu'on comprend à travers le retour, si une nation qui était morte est capable de revivre, c'est donc que même l'individu peut revivre. C'est-à-dire que ça donne l'intuition de cela. D'accord ? Ce n'est pas la preuve de cela. Il ne s'agit pas ici de preuve, il s'agit d'intuition. D'accord ? On avait vu que dans la deuxième bénédiction du Shmoné Esré, dans la question de Mirhaya Metim, on parle six fois de la résurrection des morts, à chaque fois il s'agit d'autre chose. Une des six fois, c'est le retour d'Israël. Oui ?
Est-ce que l'image du vin qui fait revivre, est-ce qu'il y a une allusion au fait qu'il faut déjà un certain niveau d'existence pour avoir le vin et revivre ? Ou est-ce que vraiment...
Oui, il faut un certain niveau. Alors, quel est le niveau requis ? Ça, on le verra dans deux pages. Dans deux pages, la Guémara se posera la question de savoir quel est le niveau de vie requis pour mériter la Teria d'Amédim. D'accord ? Bon, eh ben, on peut continuer ou vous n'avez pas la force ? Ça va, vous avez la force, ça ? Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on a vu qu'il y avait les Hébreux, cercle extérieur les Juifs, extérieur les Minimes. Qu'est-ce qu'il y a encore d'extérieur aux Minimes ? Ben, les Goïmes. Ouais. Les Goïmes aussi, ils doivent savoir s'il y a Teria d'Amédim ou pas. Alors on va voir ça. Sha'alu Romiyim et Rabbi Yehoshua ben Hanania. Les Romains ont demandé à Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania est connu pour avoir eu des entretiens nombreux avec les Romains, entre autres avec des empereurs romains. Soit avec Domitien, soit avec Adrien. En tout cas, il a eu des entretiens à Rome, probablement, parce qu'il était dans des délégations du Sanhédrin envoyées à Rome. Et donc les Romains ont demandé à Rabbi Yehoshua ben Hanania. Minayin Sheakadosh Baruchu. D'ailleurs, en général, il est appelé tout simplement Rabbi Yehoshua. Quand on rajoute le mot Ben Hanania, c'est la plupart du temps lorsqu'il a des entretiens avec des goyim. J'ai remarqué ça, mais enfin, je ne sais pas si c'est une règle absolue, mais c'est frappant. Minayin Sheakadosh Baruchu, Mehaye Metim, Veyodea Mashéatid Liyot. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts et connaît l'avenir? C'est ce qui va se passer. Il y a ici une double question. Pourquoi une double question? Ben, d'abord que la résurrection des morts, c'est quelque chose qui a l'air absolument impensable pour l'égoïme. C'est-à-dire cette idée que l'espoir est permis, que rien n'est définitif. Ça, c'est très fort. Et ça, si vous voulez, l'espoir, c'est un truc juif. D'ailleurs, c'est la tikva, c'est notre hymne national. Il y avait un certain poète du nom d'Edmond Flegg. Vous avez entendu parler, certains? Bon. Il a écrit un texte, Nous de l'espérance. Ça, nous, les juifs, c'est quoi? Ben, ce sont ceux qui viennent témoigner que l'espoir est possible. Alors, donc, ils ont dit, Tehillat HaMetim, ça c'est un peu énorme. Il y a aussi une question un peu moins importante, mais enfin, plus facile à avaler, qu'il y a un sens à l'histoire. C'est-à-dire, Dieu sait ce qui va se passer, ça veut dire que l'histoire a une direction, qui a vers où aller. Alors, il leur a répondu, ben, Amarléou, il leur a dit, Tarvayou, les deux on le sait, Mina Mikraze, du même verset. Chez Nehemar, il leur amène le verset de Devarim, Vayomer Hashem el Moshe incha shochev mavotecha vekam. Dieu dit à Moshe, tu vas coucher parmi tes ancêtres et te relever. Donc nous savons que les morts ressuscitent. Ha'am azeh vezana, et ce peuple se prostituera. Ça veut donc dire que Dieu sait ce qui va se passer. Et ils lui ont répondu, Vedilma, peut-être qu'il faut lire, Vekam ha'am azeh vezana, que le mot Vekam concerne le peuple. Amar lehu, il leur a répondu, Nekotu mia palga bidaihu. Alors acceptez au moins la moitié de ce que vous avez demandé. Deyodea mashéatid liyot, que Dieu sait ce qui se passera. Ça veut dire, j'ai pas réussi à vous convaincre de la résurrection des morts, mais que Dieu connaît les choses à l'avance, ça j'ai pu vous en convaincre. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée que l'optimisme absolu est possible, ce n'est pas assimilable par un Romain, mais qu'il y a une responsabilité sur la marche de l'histoire, ça il peut le comprendre. C'est-à-dire le Romain comprend ce que c'est que la politique. Il rentre dans l'histoire. N'est-ce pas? Et donc, il est inaccessible à l'idée de résurrection des morts, mais il peut comprendre qu'il y a un sens à l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à part l'égoïme? Oui. Oui. Vas-y, parle sans crainte.
Tu considères que les Romains, croyant à toi,
Disons comme ça, pour les Romains, tous les dieux existent, y compris le dieu des Juifs. Et donc il faut savoir si le dieu des Juifs, il est sérieux. D'accord? C'est le syncrétisme de l'Antiquité. Il faut savoir que la Bible a toujours représenté quelque chose pour les goyim, même quand ils ne sont pas croyants. Il y avait une fois un goy qui a dit à Manitou, vous savez, moi je ne crois pas en toutes ces bêtises du christianisme, les dogmes, tout ça, j'y crois pas. Mais dites-moi, pourquoi vous l'avez crucifié? D'accord? C'est-à-dire, ça reste quelque part. Il y a un parfum. D'accord? Itmar Namé, et on enseigne ça aussi. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Minayin Shakadosh Baruch Hu Mechaye Metim, Veyodea Mashéatid Liyot, où savons-nous que Dieu ressuscite les morts et c'est ce qui se passera dans l'avenir, chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Nchashorim Avotecha Vekam Begomer. Bon, alors là, donc, on avait vu que nous avons eu des interlocuteurs hébreux, juifs, minimes et romains. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Les martiens. Il peut y avoir des martiens. Est-ce que les martiens ont posé des questions au rabbin de la Guémara? La réponse est non. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y avait pas de contact à l'époque. À part ça, parce que les martiens n'existent peut-être pas. Alors, mais nous avons quelque chose qui ressemble aux martiens, ce sont les samaritains. Les samaritains. Oui, c'est vrai, non? Les samaritains. C'est quoi les samaritains? Comment? Ouais, les samaritains, en hébreu, shomronim. c'est quelque chose qui existe à peine aujourd'hui. Il y a aujourd'hui à quelque chose comme 2000 samaritains en tout et pour tout dans le monde. Au début du XXe siècle, il en restait 200. Mais enfin, les samaritains, à l'époque de la Guémara, ils étaient 1 million. C'est quoi les samaritains? Ben, c'était lors de la destruction du royaume du Nord. Vous savez qu'à l'époque de la Bible, le royaume d'Israël a été coupé en deux, il y a eu un schisme. Et le royaume du Nord et le royaume du Sud se sont séparés. Le royaume du Nord a été détruit par Sanhérib, roi d'Assyrie. Et puis après, la population a été exilée. La population a été exilée et remplacée par une autre population amenée par les Assyriens. Et ils venaient de la ville de Kuta, c'est pour ça qu'on les appelait Koutim. Et ils ont été installés dans les ruines de Shomron, c'est pour ça qu'on les appelait les Shomronim, les Samaritains. Or, les Samaritains en question ont adopté la Torah comme religion nationale. Là, oui, là seulement la Torah écrite, mais ils se sont comportés, se comportaient selon les règles de la Torah, de la loi écrite. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, ça continue chez eux, ils ont encore d'ailleurs l'ancienne écriture, celle qui était antérieure à notre écriture à nous, dans le texte de la Torah, qui s'appelle le Ktav Ivri Kadum, l'ancienne écriture hébraïque. Et ils ne reconnaissaient pas la loi orale, non, pas du tout. Et ils ne reconnaissaient pas la centralité de Jérusalem. C'est-à-dire pour eux, le temple doit être construit à Shrem, sur le mont Grizim. Jusqu'à ce jour, les ruines de leur temple existent encore. Et ils font une fois par an le sacrifice de Pessah, là-bas, avec leur grand prêtre. Et c'est filmé par la télévision israélienne. Non, c'est vrai, hein, c'est... D'ailleurs, c'est pas le même calendrier que le nôtre. Parfois, il y a un mois d'écart entre leur Pessah à nous et notre Pessah à eux. En tout cas, à l'époque de la Guémara, il y avait donc une identité non-juive qui se considérait comme juive et qui était rivale de l'identité d'Israël. D'accord ? Alors, comment est-ce que eux conçoivent la résurrection des morts ? Donc, vous avez ici un autre interlocuteur, c'est un peu des Martiens. Effectivement. C'est pas des juifs, mais c'est pas des goïms, c'est pas des minimes, c'est quoi? Ben c'est des samaritains. D'accord? Et dans le langage de la Guémara, on les appelle les koutim. Les koutim.
C'est un peu le contraire des minimes, c'est des
Israéliens
qui sont sortis,
eux,
c'est des
Israéliens qui sont rentrés. C'est ça. Ils veulent être juifs. Mais enfin, ils ont leur manière à eux de le vouloir. D'accord? Et donc, ils ont fait toute une scène, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont leur magasin sur les bords de la Seine. Et donc, oui, bah oui, la Samaritaine. Bon. Et alors, il y a tout un débat ici. Oui.
Ils ont été déplacés.
Oui, ils ont été déplacés. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur. En tout cas, ce qui est intéressant,
c'est
qu'ils. Non. Pas des Juifs. Ils venaient du nord d'Israël.
Oui.
Non, pas de la partie nord. Ils venaient de beaucoup plus au nord, en dehors d'Israël. Ils venaient de Kuta. Kuta, c'est au Kurdistan actuel. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont un texte de la Torah qui est un peu différent du nôtre. Oui, dans le texte de la Torah samaritaine, eh bien, il y a des petites divergences qui parfois sont importantes. Par exemple, le 10e commandement, c'est pas « tu ne convoiteras pas », c'est « tu construiras un temple sur le mont Grizim ». C'est écrit en comme ça, hein, chez eux. Oui, carrément, tarar. Bon, alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon. Et il y a plusieurs fois dans la Guémara des entretiens avec eux autour, justement, du texte de leur Torah. Et le Chacham qui, à chaque fois, s'adresse à eux, c'est toujours le même, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossé, c'est lui qui a toujours des entretiens avec eux. Et là aussi, nous avons l'entretien de Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Tania. Amar Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé disaient « Bedavar ze ziyafti sifre minim ». C'est comme ça que j'ai réfuté les textes des minimes. Les minimes, ici, il s'agit des koutim. Il y a ici une erreur dans le texte. Dans les manuscrits de la Guémara, il y a écrit koutim. Ce n'est pas minim, c'est koutim. Shayu omrim, parce que affirmé, en tehiyat ametim mina Torah. Il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. Amarti lahem, et je leur ai dit, ziyaftem Torah trem, vous avez falsifié la Torah. et vous n'avez pas réussi quoi que ce soit. Shatem omrim, parce que vous dites, entihiyat amitim min haTorah. Vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. Hari ou Omer, or il y a un verset qui dit, hikaret tikaret anefesh ayir avonaba. Cette âme sera retranchée car son péché est en elle. Alors il y a ici, hikaret tikaret bar olam hazeh. Donc elle sera retranchée dans ce monde. Alors comment, après avoir été retranchée de ce monde, il y a encore sa faute en elle. Avona ba. C'est donc quelque chose qui se passe après la vie d'ici-bas. Avona ba le emat, la olam haba. Et est-ce que avona ba ne voudrait pas dire donc que même dans le monde à venir, il y a, elle est poursuivie par sa faute, donc il y aurait deux mondes, ce que niaient les Samaritains. N'est-ce pas ? Bon, alors il y a ici tout un problème, comment comprendre ce que ce texte veut dire, parce que c'est pas clair du tout. Et on va voir que la Guémara va s'embrouiller beaucoup, enfin, fait semblant de s'embrouiller dans la compréhension de ce texte. Et ça, nous le verrons, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. Shalom.